Bienvenue donc à cette fête profane, disais-je, profane entre guillemets, parce que notre prière la rend tout à fait sacrée aujourd'hui, et c'est l'apéritif le plus relevé qu'on puisse attendre. Mais c'est pas la fête de l'Assomption aujourd'hui, c'est dans son sillage. Notre-Dame du Croc, j'aimerais reprendre un peu la situation de ce sanctuaire historiquement. Il est né au Moyen-Âge. C'est un lieu de lumière depuis cette époque. Vraiment de lumière, parce qu'il est habité par la Vierge Marie. Il y a deux sortes de sanctuaires. Il y a ceux qui sont nés à l'initiative du ciel. C'est lourd, des apparitions que personne n'avait demandées, auxquelles on ne s'attendait pas. Et vous avez les sanctuaires qui sont nés de la prière des hommes, de leur initiative. Et ces deux sanctuaires sont tout aussi habités par la Vierge Marie, ces deux types de sanctuaires. Ici, c'est une prière d'une humble bergère qui est à l'origine de Notre-Dame du Croc. Au Moyen-Âge donc, une bergère faisait paître ses troupeaux là en bas où nous allons déjeuner. Et parce qu'il y a une source à cet endroit-là qui sort du rocher, et elle avait un nouveau-né qui était malade et qui était en train de mourir, ce petit enfant. Il y avait beaucoup de mortalité infantile à cette époque. Elle a prié la Vierge Marie, elle a même accompagné son geste d'une onction d'eau de la source, et parce que les gestes, ça raffermit notre prière. Elle s'est tournée vers Marie spontanément, Marie qui est mère, alors qu'elle était mère aussi, et une mère qui pleurait un enfant qu'elle allait perdre. Et la Vierge l'a exaucée, l'enfant a été guéri, et les gens se sont dit, ici la Vierge Marie accomplit des miracles, ici la Vierge Marie nous entend notre prière. Alors ils ont décidé la construction de cet édifice. Au long des âges, et en fonction de la piété mariale, parce que vous savez que les églises ont été construites en fonction des populations qui les remplissaient, eh bien, elle a été agrandie. C'était à l'origine une petite chapelle romane, et elle est, deux siècles après à peu près, elle a pris des proportions que nous connaissons. Puis deux siècles après, au XVIIe, fin XVIIe, elle a été décorée. Là, vous ne pouvez pas voir. Mais le style tridentin, ça marque le XVIIe siècle, l'application du Concile de Trente. Mais les deux chapelles latérales, là, montrent bien, qui sont dédiées à la Passion, montrent bien la chose. Toute la décoration, eh bien, concerne la vie de la Vierge Marie, au centre, sa naissance. Et puis elle grandit, il y a son mariage et il y a l'Assomption, là, et... On tourne ainsi, en résumé, on refait avec Marie eh bien, l'itinéraire de son existence. Et son existence reprend exactement la nôtre. La Vierge Marie a une vie très simple, mais en même temps, par sa beauté, par sa puissance spirituelle, elle a été attirée de Nazareth, depuis Nazareth, jusqu'au pied de la croix où elle reçoit Saint Jean comme fils. Et elle devient la mère de l'Église à ce moment-là. Et elle n'a cessé de l'être. Ici, comme beaucoup de sanctuaires, Marie est célébrée comme consolatrice des affligés et maîtresse de vie spirituelle. Elle commence par consoler. Elle accueille la prière de cette bergère, humble comme elle. Et de là, elle la forme dans la foi. Vous voyez, il y a un beau parallélisme à faire avec le texte de ce jour, la cananéenne, la païenne, mais qui accède à la foi au Christ. Eh bien, c'est cela, la dévotion, la piété mariale. Marie ratisse très large, elle lance le filet très au large, et beaucoup plus au large que le clergé. Et il faut l'avouer, la Vierge Marie, c'est quand même pas n'importe qui. Et elle réalise le but exprimé dans la première lecture, et que poursuit bien évidemment Jésus à travers son existence, proposer aux nations d'accéder à Dieu, d'accéder à la foi. Alors Jésus proteste d'abord, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Mais c'était uniquement pour sauver ceux, la dernière planche de salut en quelque sorte, pour ceux qui étaient nés de l'ancienne alliance. Parce que Jésus, lui, il est venu tout révolutionner, il est venu étendre, enfin, plus qu'étendre, il est venu réaliser une nouvelle alliance, mais à partir de la première, parce qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu et qu'il n'y a qu'une seule foi, c'est-à-dire une adhésion à la souveraineté de ce Dieu, créateur du ciel et de la terre, et il allait l'étendre. Et Marie ne cesse au long des âges d'étendre, de lancer des filets très largement. On peut toujours trouver auprès d'elle cette consolation du cœur et matérielle, et en même temps cette formation spirituelle qui permet de s'opposer, de ne pas être englouti par les ténèbres. Les familles, au moment de la Révolution française, pour poursuivre mon itinéraire, il y a eu un déclin là. Au moment de la Révolution, il n'y avait qu'une poignée de moines à Cônes. Et puis ici, c'était eux qui avaient en charge la chapelle. Des familles, ça a été confisqué, tous ces biens-là, des familles, ont racheté la chapelle du Cross. Et elle a été sauvée du naufrage de cette façon-là. Et elle est renée, et aujourd'hui, elle appartient au diocèse de Carcassonne. Voilà pour l'histoire de la chapelle du Cross. Et les pierres parlent. Si des hommes ne croient pas, ce sont les pierres qui crieront, disait Jésus. Et les pierres chantent toujours la louange de Dieu dans cette chapelle. Vous pouvez en ressentir en fermant les yeux, en restant bien tranquillement, peut-être à des heures de la journée où elle est un peu plus solitaire, peut-être. Une grande douceur, une présence maternelle qui n'est autre que celle de Marie. Et Marie nous révèle ici un grand mystère, et elle nous y prépare. Il faut choisir dans notre vie entre la lumière et les ténèbres. Le monde n'est pas moralement neutre. On voudrait bien, parce que comme ça on n'aurait pas besoin de s'engager, mais ce n'est pas le cas. Si on n'embrasse pas la lumière de la foi, la lumière de Dieu, son amour et sa vérité, sa toute-puissance, on embrasse fatalement le contraire. On embrasse fatalement les ténèbres. Et ça, on peut dire que le symbole de la maison d'Israël, ce que Jésus appelle la maison d'Israël, c'est l'Église. Et l'Église, qu'est-ce que c'est? Fondamentalement, c'est la maison de la foi. C'est la maison où on est formé dans la foi, c'est la maison où on grandit dans la foi, où on est, grâce au sacrement, alimenté par la foi, en quelque sorte. Notre foi, d'une manière plus cohérente, est alimentée par les sacrements. C'est la nourriture, la manne céleste, la vraie manne, qui nous est communiquée pour cela. Dans l'Apocalypse, le 15 août, on a lu ce beau texte du dragon terrifiant qui se trouve devant la femme qui est prête à enfanter. Le démon, le prince de ce monde, comme Jésus l'appelle, prince de ce monde, c'est pas Jésus le prince de ce monde, veut dévorer la foi dans les âmes. Il se nourrit de la foi des âmes, et c'est sa victoire et sa gloire quand il permet d'éloigner les hommes de Dieu. Les démons se glorifient de cela, de dévorer la foi des gens. C'est une espèce de parasite qu'il faut combattre de toutes les manières. Parce que la foi est la seule capable de sauver le monde des ténèbres, précisément. Le monde vit dans l'illusion. Notre monde, là, vit dans l'immense idéologie, polymorphe d'ailleurs, mais enfin peu importe. C'est le culte du bonheur. Ça, c'est la grande idole contemporaine. Le culte du bonheur. le bonheur de soi, de son corps, de ses relations, et de son portefeuille. Ça, ce bonheur-là, il est particulièrement prisé. Le culte du bonheur, je veux être heureux, je suis là pour être heureux, et c'est un scandale si quelque chose vient troubler mon bonheur. Et il faut que je puisse faire appel dans les tribunaux à ceux qui, même s'il n'y en a pas, on les cherche, on les trouve, il y en a toujours des boucs émissaires là qui sont sous la main, pour essayer d'évacuer le scandale. Je ne suis pas heureux. Plus les hommes poursuivent le bonheur et plus le bonheur s'éloigne d'eux. C'est une loi qu'on observe. Parce que poursuivre le bonheur pour lui-même, c'est faire de son petit ego un véritable Dieu. Et on est alors la proie des ténèbres. Le culte du bonheur, c'est directement inspiré par le dragon, la méchante bête. Dieu, l'Immaculée Conception, elle, devant laquelle se tient en arrêt le dragon pour dévorer l'enfant, donc la foi de cette femme radieuse, eh bien, elle est destinée à écraser la tête de ce même dragon. Et elle va l'écraser par un autre culte, qui est celui de l'amour et de la vérité. Et ce culte-là est le culte véritable. Cherchons à connaître la finalité de la vie, connaître la vérité, et cherchons à vivre de l'amour qui émane de cette vérité, comme la lumière du soleil. C'est ainsi que nos familles seront nourries, que nous trouverons dans nos familles la nourriture, que nous trouverons, nous serons capables de trouver dans les sacrements que l'Église nous propose une nourriture pour nous faire grandir dans la foi. Et nous serons alors au moins comme la Cananéenne. Nous pourrons combattre ces présences obscures que sont les démons parce que nous pourrons nous adresser à Jésus et le supplier de venir et bien chasser ces démons de nous-mêmes ou de ceux que nous aimons. Alors prions dans cette intention-là pour devenir aux yeux de Jésus des hommes et des femmes de foi.